BW. Vue d'Allemagne.
La Slovaquie n'oublie pas Jan Kuciak. Le 21 février 2018, le journaliste était assassiné avec sa fiancée alors qu'il enquêtait sur des liens entre responsables politiques et la mafia italienne. Un an plus tard, le journalisme d'investigation et l'éducation aux médias connaissent un regain d'intérêt en Slovaquie. Avant ce reportage, coup de projecteur sur les méthodes contestées de la police lors des manifestations en France. Nous verrons pourquoi c'est différent en Allemagne. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. En quelques semaines, les violences policières sont devenues un élément fédérateur du mouvement des Gilets jaunes qui agite la France. Il y a eu cette femme de 80 ans, décédée début décembre à Marseille, après avoir reçu une grenade lacrymogène en plein visage. Et il y a ces blessures aux yeux et aux mains, recensées à chaque manifestation ou presque. Selon le collectif militant français Désarmons-les, 20 personnes ont été éborgnées durant les manifestations, 5 autres ont eu une main arrachée. Au total, le collectif a recensé 138 cas de mutilations ou blessures graves depuis le début du mouvement, le 17 novembre 2018. Parmi les armes incriminées figurent les lanceurs de balles en caoutchouc LBD. Ce fusil de nouvelle génération est interdit dans de nombreux pays, mais en France, le Conseil d'État vient de rejeter les plaintes visant à suspendre son utilisation.
On tire sur un peuple avec une arme de guerre. C'est ça la France aujourd'hui.
Jérôme Rodriguez, un des chefs de file du mouvement des Gilets jaunes. Il portait déjà une longue barbe noire à la pirate. Depuis qu'il a perdu un œil lors d'une manifestation le 2 février, il a le cache-œil noir qui va avec. Une enquête policière est en cours pour déterminer la nature du projectile qu'il a éborgné et l'origine du tir. Alors évidemment, Jérôme Rodriguez exagère. La police française n'est pas équipée d'armes de guerre, du moins pas encore. Une arme de guerre ne tirerait d'ailleurs pas de balles en caoutchouc. Pour autant, les dégâts causés par les LBD et les grenades de désencerclement ne sont pas beaux à voir, comme en témoigne Clément Lanneau. Le photojournaliste couvre les manifestations des Gilets jaunes sur le terrain.
Le LBD, oui, il est dangereux. On a vu beaucoup de blessés sur les manifestations des Gilets jaunes parce qu'en fait, c'est une arme où il y a des zones de tir qui sont interdites. Les fonctionnaires de police ne peuvent pas tirer sur la tête ni sur les parties basses du corps. Et en manifestation, tout le monde bouge, il y a beaucoup de mouvements et c'est compliqué de viser juste, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, il y a eu beaucoup de blessés, a priori à cause de ce LBD. Moi, j'ai vu plusieurs fois, dans des mouvements de foule, dans des moments où c'était tendu, des tirs de LBD. Et puis après, on voit que les gens s'écroulent au sol. Ils sont soit blessés aux jambes, soit parfois à l'œil. J'ai vu beaucoup de blessés importants. Les gens saignent, c'est très impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses en manifestation.
En Europe, les LBD sont interdits dans la plupart des pays. Seule la Grèce, la Pologne et l'Espagne, hors Catalogne, autorisent leur utilisation. En Allemagne, les policiers déployés dans les manifestations sont armés de matraques et de boucliers, appuyés par des canons à eau pour disperser les contestataires. Il n'y a pas de LBD et ce n'est pas plus mal, selon Nils Zurawski, chercheur à l'Institut de recherche sociale et en criminologie de l'Université de Hambourg.
Il n'y a pas de lanceur de balles en caoutchouc et même s'il y a régulièrement des réclamations, personne n'a osé y recourir jusqu'à maintenant. La police allemande n'a pas une tradition d'armement lourd. Elle a pendant longtemps essayé une stratégie de désescalade et les appels à des équipements plus lourds datent d'une quinzaine d'années. Mais la classe politique est réticente et c'est d'ailleurs surprenant à équiper la police avec davantage d'armement.
L'équipement de la police allemande est du ressort des Länder, les États régionaux. Les 16 services de police régionaux et la police fédérale pourraient donc décider séparément de recourir aux lanceurs de balles en caoutchouc, comme leurs voisins français. Les autorités françaises se sont d'ailleurs vues confortées dans leur position par la décision du Conseil d'État de valider l'utilisation des LBD. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'a défendu à maintes reprises ces derniers jours sur les antennes des radios françaises, ici sur RTL, avec des arguments qui font froid dans le dos.
On a des militants casseurs qui viennent et qui vont au contact avec nos forces de l'ordre parce qu'ils veulent se battre avec les forces de l'ordre. Mais ce que je sais de nos armes de défense, ce que je sais, c'est que si on les retire à nos policiers, il leur reste quoi? Il leur reste le corps à corps quand ils sont agressés parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ou il leur reste leur arme de service. Moi, je ne souhaite pas, évidemment, ni vous ni moi, qu'ils utilisent leur arme de service. Et je souhaite éviter le corps à corps, l'usage du LBD avec des caméras piétons. Il y a eu 32 tirs de LBD la semaine dernière, samedi, à Paris. Les 32 ont été filmés.
Alors il est vrai que le niveau de violence dans les manifestations a pris de l'ampleur ces dernières années en France, mais de nombreux témoignages rapportent que les policiers anti-émeutes ont visé des manifestants non violents et même des journalistes identifiés comme tels puisqu'ils portaient des brassards de presse. Les caméras désormais installées sur les LBD pourraient réduire ce genre d'abus. En Allemagne aussi, la relation entre la police et les citoyens s'est dégradée ces dernières années. L'image du policier ami au service de la population a du plomb dans l'aile et les manifestations sont parfois émaillées de violence. Lors du sommet du G20 à Hambourg, la police avait d'ailleurs été très critiquée pour la façon dont elle avait réprimé la contestation, sans faire de distinction entre casseurs et manifestants pacifiques. Une provocation inutile, selon le sociologue Neil Suravski.
Ce qui est impossible à déterminer, c'est qui a commencé. L'argument de la police, c'est dire qu'ils ont besoin de plus de protection. Mais les manifestants ne vont pas dans la rue contre la police, du moins à l'origine. Ils manifestent contre une loi sur le travail ou une loi sociale pour plus de quelque chose. De l'autre côté, il y a la police envoyée pour protéger l'ordre de l'État. Et si elle est trop robuste, c'est une provocation pour la partie adverse. Je trouve donc que c'est un argument faible de dire qu'on a besoin de plus d'armement. Ce genre de rhétorique et de logique ne fait qu'entraîner davantage de violence et davantage de blessés et davantage de dégradation de la relation entre la police et les citoyens. Et il n'y a plus d'espace pour dire peut-être qu'on devrait se calmer. Il faudrait peut-être une stratégie de communication pour rétablir le dialogue. Et c'est une question qui s'adresse à la politique puisque la police est envoyée par la force politique. Que fait la classe politique pour calmer la situation?
La classe politique française, elle, veut en finir à tout prix avec les violences dans les manifestations. Une loi anti-casseurs contestée jusque dans les rangs de la majorité vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment des interdictions administratives de manifester sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, ce qui est vu par de nombreux défenseurs des libertés comme une restriction du droit de manifester. Le ministère de l'Intérieur a quant à lui commandé 1280 LBD supplémentaires pour les 4 prochaines années. Après cette pause musicale, nous nous rendons maintenant en Slovaquie. Le 21 février 2018, le jeune journaliste Jan Kuciak était tué par balle avec sa fiancée Marina Kusnirova. Il enquêtait alors sur des affaires de corruption et de collusion entre mafia et gouvernement. Ce double assassinat a profondément marqué la population slovaque, dont une partie est descendue dans la rue pour manifester puis obtenir la démission du Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur. Un an après la mort du journaliste, les collègues de Jan Kuciak continuent tant bien que mal leur travail et un nouveau centre pour le journalisme d'investigation vient d'être fondé à Bratislava. Le reportage sur place, signé Alexis Rosenzweig.
J'étais à la maison l'année dernière quand j'ai appris que Jan avait été tué avec sa fiancée. J'ai d'abord cru que c'était une très mauvaise blague, mais après ça a été un choc terrible.
Le 21 février prochain, Arpad Soltes ne prévoit pas d'événement particulier pour marquer le premier anniversaire de la mort de son collègue Jan et de Martina, tués à l'âge de 27 ans seulement. Journaliste depuis une vingtaine d'années en Slovaquie, il a été personnellement menacé et aussi tabassé à la fin des années 90, alors qu'il enquêtait sur des pratiques mafieuses. Pour Arpad, la meilleure façon de rendre hommage à son ami est de poursuivre son travail. C'est pour ça qu'il a décidé d'initier la création du nouveau centre slovaque pour le journalisme d'investigation, un centre qui porte le nom de Jan Kuciak.
Avec l'aide de la collègue tchèque qui travaillait avec Jan pour sa dernière enquête sur la présence de la mafia italienne en Slovaquie, nous avons décidé d'initier ce nouveau centre et nous avons signé un accord de partenariat avec le regroupement international de journalistes d'investigation, appelé OCCRP. Ils nous ont aidés financièrement pour démarrer et nous sommes désormais la plateforme de contact pour la partie slovaque des enquêtes internationales de type Panama Papers. Nous avons également accès à des bases de données internationales dont pourront avoir besoin nos collègues slovaques.
Nous sommes ici au Progress Bar, ce qui est le premier hackerspace de Slovaquie.
Plus qu'un local pour pirates informatiques, le Progress Bar est un lieu du centre de Bratislava où se rencontrent beaucoup de jeunes Slovaques qui ont envie de faire bouger les choses. C'est en partie ici qu'après la mort de Jan Kuciak, a été initié le mouvement pour une Slovaquie décente, un mouvement dont fait partie Martin Kuštek. Il est très impliqué dans les programmes destinés aux lycéens et étudiants, avec un intérêt particulier pour l'éducation aux médias.
Trois quarts des jeunes avant l'assassinat n'avaient pas confiance pour les médias de masse. Les journalistes ont compris que c'est très important pour la démocratie que les jeunes comprennent comment travaille le métier de journaliste. Ils ont commencé à faire des ateliers pour les jeunes pour leur expliquer quelles sont les méthodes de contrôle de la véracité ou de la vérité des nouvelles. Nous avons maintenant 30 ou 40 professionnels qui maintenant rencontrent des jeunes dans tous les pays pour leur expliquer comment les médias, la citoyenneté, la vie publique, la politique, les élections fonctionnent ensemble.
La méfiance envers les médias est d'autant plus importante en Slovaquie qu'on reproche aux responsables politiques de contrôler le contenu de l'audiovisuel public, la RTVS, un sentiment partagé par Frédéric Minkiewicz, qui a travaillé il y a une vingtaine d'années.
Moi j'ai toujours, voilà, suivant le résultat des élections, je sais si je vais regarder la télé slovaque pendant 4 ans ou pas. Et là ça fait deux fois 4 ans que je ne regarde pas, donc on va attendre les nouvelles élections, j'espère que je vais enfin pouvoir à nouveau regarder la télé. Mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'on soit dans une dictature où tout est verrouillé, mais c'est vrai que les RTVS, depuis que ça a été remanié un peu, c'est plus aussi objectif qu'avant, quoi.
Un an après la mort de Jan Kuciak, police et justice slovaque poursuivent leur enquête. Plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé au meurtre ont été arrêtées. Marian Kočner, entrepreneur à la réputation sulfureuse, est lui aussi en prison. Il est depuis plusieurs semaines présenté comme le commanditaire présumé. Marian Kočner est un personnage bien connu de tous les journalistes d'investigation slovaques, dont Adam Valček, qui lui a consacré beaucoup d'articles dans le quotidien SME.
Aktuálne sa nachádzame v tzv. Dome novinárov, čo je sídlo slovenského syndikátu novinárov.
Le rendez-vous avec Adam Valček est donné dans le bâtiment du syndicat des journalistes. Il n'en est pas membre, mais il s'inquiète pour l'avenir de sa profession, pas tant à cause des pratiques mafieuses que des pressions politiques.
Il y a notamment un projet de loi du Parti nationaliste, membre de la coalition au pouvoir, qui prévoit la création d'une chambre professionnelle des journalistes, comme en Hongrie, donc une institution semi-étatique qui aurait le pouvoir de décider qui est journaliste et qui ne l'est pas, ce qui, pour la liberté de la presse, représente un gros risque.
La nouvelle législation sur la presse sera l'un des thèmes importants de la campagne pour les élections présidentielles qui se déroule le mois prochain en Slovaquie. Alexis Rosenzweig à Bratislava pour la Deutsche Welle.
Et depuis l'an dernier, de nombreux hommages ont été rendus à Jan Kuciak, mais aussi à la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée en 2017, elle aussi en pleine enquête sur la corruption. Parmi ces hommages, un prix pour les journalistes lanceurs d'alerte leur a été décerné en 2018 par le groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. L'appel à candidature pour la deuxième édition de ce prix est ouvert jusqu'au 1er mars. Et c'est déjà la fin de votre magazine Vue d'Allemagne. Merci à John Lorenson pour les sons recueillis à Paris, ainsi qu'à Nils Suravski pour son éclairage sur la police allemande. La bande-son de ce magazine était assurée par le groupe Jungle by Night. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !